Aujourd'hui, nous sommes avec Phil Como, réalisateur de films originaire de Nouvelle-Écosse. Il vient nous présenter son nouveau film, L'Ordre Secret, qui a remporté le prix du public à la 36e édition du Festival International du Cinéma Francophone en Acadie. Il nous a d'abord présenté le film.
L'Ordre Secret, c'est l'histoire de l'Ordre de Jacques Cartier, qui est une société secrète qui travaillait dans l'ombre à travers le Canada avec 850 cellules qu'on appelait des commanderies pour faire avancer le fait français. Le fait français, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau politique, pour que les francophones aient plus de droits, par exemple, plus de droits en éducation, parce que dans ces années-là, l'éducation francophone était illégale, en Nouvelle-Écosse comme dans la plupart des provinces à l'extérieur du Québec. L'Ordre de Jacques Cartier, qu'on appelait aussi la patente, a fonctionné pendant 40 ans, de 1926 à 1965.
Il a découvert cet ordre par son père qui en faisait partie.
En fait, mon père m'a appris qu'il faisait partie de l'Ordre de Jacques Cartier sur son lit de mort. Donc, il est décédé 2 jours après. Fait que j'ai été assez surpris, assez étonné, premièrement, qu'il faisait partie d'une société secrète et deuxièmement, qu'il y en avait une dans ma communauté. Parce que j'ai été élevé à la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Et jamais que j'aurais imaginé qu'il y avait une société secrète qui fonctionnait à la Baie-Sainte-Marie comme il y en avait à Halifax, à Chiticamp, à l'Île-Madame, etc. Fait que, et à Pobnico. Et donc, ça a été une très grande surprise. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais essayer de faire un film sur cette histoire de l'ordre secret parce que pas grand Canadien était au courant. Je suis allé aux archives nationales à Ottawa, pour voir si je pouvais avoir accès aux archives. Il y avait un embargo sur les archives de l'Ordre secret. Donc, il m'a fallu attendre plusieurs années que l'embargo soit levé pour que je puisse enfin découvrir plus sur l'Ordre, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils ont fait dans nos communautés, etc. Pour ensuite, à ce moment-là, j'ai commencé à développer le projet. J'ai fait de la recherche pendant 2 ans. Il y avait des archives à l'Université d'Ottawa, aux archives nationales à Ottawa, à l'Université de Montréal, puis à l'Université de Moncton. Je n'ai pas été capable d'en trouver à l'Université Sainte-Anne. Par contre, j'ai trouvé des archives qui parlaient de la Nouvelle-Écosse à l'Université de Moncton, surtout parce que la Nouvelle-Écosse relevait de Moncton. Parce qu'il y a des différents niveaux, si tu veux. Il y avait Ottawa, qui était le siège social. C'est là que l'Ordre a été fondé en 1826 par des Québécois, des Ontariens, puis un Acadien. Puis de là, ça s'en allait dans les régions. Et pour la Nouvelle-Écosse, c'était à partir de Moncton qui était le bureau régional, si tu veux.
Comme il nous l'a expliqué, il y avait au début un embargo sur les archives concernant cet ordre. Nous lui avons demandé si cela avait été difficile de trouver des personnes pour témoigner.
Oui, ça a été vraiment difficile. Premièrement, il faut dire qu'il y a eu 72 000 membres à travers le Canada pendant les 40 ans. Et sur les 72 000, il n'en reste même pas 10 % qui sont vivants. Le plus jeune, j'ai pu trouver, avait 77 ans. Le plus jeune et la personne la plus âgée, 94. J'ai filmé une quinzaine de commandeurs, dont un en Nouvelle-Écosse. Et puis, il y a des gens qui refusaient, oui, il y a des gens qui refusaient d'admettre qu'ils en faisaient partie parce qu'ils avaient prêté un serment de jamais parler de l'ordre, à tel point que même plusieurs d'eux, les épouses, n'étaient pas au courant qu'ils faisaient partie de l'ordre, fait que ni leur famille. Fait que il y a des gens confusés, mais le fait que l'embargo a été levé sur les archives et que j'avais accès au registre des membres, donc aux 72 000 membres, là j'ai pu trouver tous les membres qu'il y avait d'un bout à l'autre du pays, mais aussi en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, il y avait à peu près 130 membres en Nouvelle-Écosse et il y avait 7 cellules ou des commanderies en Nouvelle-Écosse. Et donc, sur ces gens-là, il y en avait une dizaine qui étaient encore vivants et certains qui n'avaient un peu perdu la mémoire. à Villeroche, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Puis il y en a quelques-uns confusés, même si, si c'était rendu public. Mais il y a une personne en Nouvelle-Écosse qui avait refusé de l'admettre, puis qui a vu le film et qui regrette. Qui regrette d'avoir pas participé au film, tu sais. Fait que vous allez voir dans le film, c'est assez amusant. J'ai parlé de ça un peu.
Phil Comeau nous a ensuite expliqué qu'est-ce que l'ordre avait fait en Nouvelle-Écosse.
En termes de francophonie, ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Écosse, ils ont installé 4 postes de relais de Radio-Canada, parce que Radio-Canada, avant l'ordre, c'était impossible d'entendre Radio-Canada en Nouvelle-Écosse. Ensuite de ça, ils ont travaillé très fort pour essayer de bilinguiser les enseignes, parce que la majorité des enseignes étaient en anglais seulement. Même les noms des villages avaient été traduits par le gouvernement en anglais. Ils ont travaillé très fort pour essayer de bilinguiser certaines des enseignes. Puis ça continue après. Au niveau de l'éducation, parce que l'éducation en français était illégale en Nouvelle-Écosse, c'est qu'un privilège. En autre mot, les professeurs, c'était des francophones, des Acadiens, qui enseignaient en français, mais il y avait des textes en anglais en Nouvelle-Écosse. Ça n'a comme pas de bon sens. Fait que c'était pas une bonne éducation quand il faut que tu t'ailles de l'anglais à français dans la même phrase. Ils ont fait énormément au début des photocopies, imagine donc, au Gessner de textes français pour pouvoir les distribuer dans les écoles. Éventuellement, ils ont publié des livres, etc. Ils ont ouvert les clubs Richelieu. C'est l'ordre de Jacques Cartier qui a ouvert les clubs Richelieu. Et les clubs Richelieu, il y en avait partout à travers la Nouvelle-Écosse, qui était un club social fondé par l'ordre de Jacques Cartier, mais qui était public. Donc, mais on le sait, la plupart des membres du club des Richelieu étaient aussi membres de l'ordre de Jacques Cartier. Donc, il y avait les réunions publiques puis les réunions secrètes en parallèle. Ils ont développé, ils ont défendu le Collège Saint-Anne à chaque fois que le collège était menacé par des coupures ou autres. En termes de culture, ben, ils ont encouragé le développement de festivals acadiens, comme je disais tantôt. Ils ont développé la musique d'expression acadienne française, parce que jusqu'à ce moment-là, les gens entendaient les radios américaines et de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, les radios anglophones, fait qu'ils apprenaient des chansons en anglais. Donc, il avait, à part le folklore, à part des chansons que les gens connaissaient de leur père et de leur mère et de leur grand-mère, etc., il y avait jamais de nouvelles chansons francophones. Donc, il a encouragé la création de nouvelles chansons en langue française. Il y avait un folk school aussi en français au Cabreton. Il y a eu, comme j'ai dit tantôt, le bicentenaire de la déportation à travers la province, même à Grand-Pré. Et puis, ce qu'il faisait aussi, il voulait faire connaître les Acadiens ou les francophones de la Nouvelle-Écosse au reste des francophones à travers le pays. Donc, l'Ordre, à travers une revue qui s'appelait L'Émirion, qui était le nom du voilier de Jacques Cartier, c'était ça le nom de la revue, et on a beaucoup parlé des Acadiens de la Nouvelle-Écosse à ce moment-là. Ensuite, au niveau de la religion, parce qu'à cette époque-là, les gens étaient très pratiquants, ils allaient à l'église beaucoup. Il encourageait les prêtres francophones à les gens à devenir prêtres et curés de leur paroisse, parce que dans certaines paroisses, c'était des curés irlandais catholiques. Et on sait ce que ça faisait, c'est que ça faisait qu'il y avait des messes en anglais au lieu d'avoir des. Ben, en anglais, c'était latin dans le temps, mais éventuellement, c'est devenu des messes en anglais ou en français, mais il fallait qu'il y ait des curés francophones, même qu'ils ont ouvert une diocèse à Yarmouth. Il n'y avait pas de diocèse catholique dans le sud de la province. C'était juste à partir d'Halifax. Et donc, ils en ont ouvert une et ils l'ont nommé Monseigneur Albert le Ménager, par exemple, qui a beaucoup fait pour avancer la religion dans le sud de la province. Au niveau de la politique, ben, ils plaçaient des députés. Ils plaçaient des députés qui avaient des valeurs similaires à l'ordre de Jacques Cartier, qui voulaient faire avancer les francophones, faire avancer essayer d'arriver à avoir une loi permettant l'enseignement en français dans les écoles, etc. Et puis, Pour résumer, ben, c'était un réseau. C'était un réseau. Il faisait du noyautage, qu'on appelle. Et donc, il faisait partie de toutes les associations. Donc, en plus de l'ordre secret, il s'en allait dans toutes les autres associations de leur communauté, que ce soit à Halifax ou ailleurs. Et puis, il s'infiltrait, si on peut dire, pour s'assurer que jamais que les francophones soient reculent ou soient mal vus ou qu'on fasse des choses anti-francophones. Donc, c'était vraiment, c'était un watchdog, c'était vraiment, par exemple, la fondation du Club français en 1965, ben, c'est parti du groupe d'Halifax. Et 2 ans plus tard, ben, on a fondé la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, la FAN. Donc, ça aussi, c'est né de ça. Donc, il y a eu beaucoup d'avancement pour les francophones grâce à cette
Grâce à
société.
ça. Et enfin, le réalisateur nous a expliqué l'origine du nom de l'ordre Jacques Cartier.
Jacques Cartier, c'est le premier Français qui est venu en Amérique du Nord, un explorateur français, en 1534. Il a fait le tour de nos côtes, tout ça, et puis son voilier s'appelait l'Émirion. Et donc, ils ont donné ce nom-là, l'ordre de Jacques Cartier. Mais c'était toujours les gens, quand ils se rencontraient entre eux, ils parlaient de la patente. Au cas où quelqu'un les écoutait, si par exemple 2 membres de l'ordre se rencontraient en public, ben, ils parlaient de la patente. Ça fait que la patente, c'est un mot fourre-tout qui veut rien dire, dans le fond, qui veut tout dire. Quand on dit la patente, là, tu sais, la patente, là, ben, c'est un terme. Ça fait qu'on utilisait plutôt ce terme-là. Puis la
D'accord.
raison, finalement, la raison qu'ils ont dû faire un ordre secret, c'est parce que les anglophones avaient leurs propres ordres secrets. Il y avait les orangistes qui travaillaient pas, non seulement pour faire avancer les anglophones, mais aussi qui travaillaient contre les francophones. Tu avais aussi les francs-maçons qui, eux, n'étaient pas contre les francophones, mais qui étaient contre les catholiques. En autre mot, les francs-maçons, eux, c'est une organisation secrète qui existe encore aujourd'hui, comme les orangistes d'ailleurs. Puis eux, c'était basé sur la science, donc ils croyaient aucunement à la religion. Donc, c'était forcément contre les francophones, parce que les francophones, à l'époque, étaient très pratiquants, très catholiques. Puis le troisième groupe, c'était le Ku Klux Klan. Ça va peut-être t'étonner, mais le Ku Klux Klan, c'était pas seulement de la discrimination contre les Noirs aux États-Unis, c'était vraiment de la discrimination contre les Français et les catholiques du Canada. Et donc, il y a eu du Ku Klux Klan dans ces années-là, et c'est une autre des raisons pourquoi les Français devaient organiser une société secrète francophone pour faire avancer le leur.
La séance aura lieu le vendredi 10 mars à partir de 19h à la salle Georges Cottreau de l'école du Carrefour à Dartmouth. L'entrée est gratuite, mais il est quand même conseillé de réserver sa place à l'avance. Vous pouvez le faire sur le site du Conseil communautaire du Grand Havre, ccgh.ca. Merci à Phil Como pour cette entrevue. C'était Adèle de C98 pour IGL Halifax.